Maintenant, il y a deux grandes écoles d'intelligence artificielle. Donc la première, c'est depuis 2-3 décennies, et puis qui essaie de faire beaucoup au niveau des programmations, des représentations symboliques. Et maintenant, on se dirige vers une intelligence artificielle où la notion d'interaction avec l'environnement est assez importante. Et on est passé un peu de la métaphore. L'intelligence, c'est l'ordinateur. C'est une analogie entre ordinateur et cerveau. Et maintenant, de plus en plus, on compare l'intelligence par rapport à la métaphore de l'enfant qui apprend et qui grandit. Comment résumeriez-vous la situation de ces 30 ou 40 dernières années, disons, des limites de chaque discipline? Ouais.
Là, je pense que vous avez fait une très bonne résumé de la situation. Ça veut dire que au début, on a pensé que c'était possible de... Est-ce que je dois...
Non, ça va très bien. Il est très bien.
Qu'on peut programmer l'intelligence. Ça veut dire que on peut construire une machine. Évidemment, on utilise les... l'humain comme source d'idées, et on analyse le comportement des experts, par exemple dans le jeu des échecs, et on met les règles des experts dedans, ou par exemple le langage naturel, on fait une analyse du langage et on met ça dans un ordinateur. Et ça marche pas vraiment, parce que l'intelligence est quelque chose, ou le comportement intelligent c'est quelque chose qui est adaptif. C'est presque évident quand on le dit maintenant, mais bon, à l'époque, c'était pas. Et ça veut dire que aussi le langage est quelque chose qui n'est pas fixe, mais qui change tout le temps. Et le problème aussi, c'est que les environnements sont imprévisibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir comme ingénieur toutes les situations possibles. Et tous ces arguments-là ont donné le problème qu'il faut trouver une autre voie, qui est plutôt une voie de l'intelligence émergente. Ça veut dire qu'on essaie de comprendre d'où viennent les comportements sensorimotrices, d'où vient le langage, etc., sans que c'est nous qui vont le programmer dedans. Et alors là, on passe des métaphores de la logique, les machines, la programmation, les mécanismes qui sont typiques pour le computer science, hein. On passe vers des métaphores et des principes biologiques, comme l'auto-organisation, comme l'émergence, le sélectionnisme, etc. Et c'est ça qui est en train de se passer. Au début, la vie artificielle, par exemple, était plutôt intéressée dans les phénomènes biochimiques, des automates cellulaires et des choses comme ça. Et une chose que moi j'essaie de faire déjà pendant pas mal d'années, c'est de montrer aussi que les mêmes mécanismes biologiques sont aussi importants pour comprendre l'évolution du langage, l'évolution de l'intelligence, les comportements intelligents, etc.
La nouvelle manière, on peut dire qu'elle suit un peu une manière évolutionniste de la nouvelle perception de l'intelligence.
Oui, mais il faut faire une distinction entre une évolution génétique, qui est étudiée évidemment par la biologie, et une évolution culturelle. Plutôt l'apprentissage et la transmission de connaissances vers le langage, par exemple, ou vers l'imitation des comportements par les enfants, etc. Et justement, par exemple, dans nos travaux sur le langage, il n'y a pas une... on met par exprès, on ne met pas du tout une évolution génétique dedans. C'est complètement culturel. Ça veut dire on fait des simulations avec des agents, comme on fait dans d'autres domaines de A-Life, et on essaie de... Ils ont un comportement d'apprentissage qu'on donne, et c'est avec ces comportements d'apprentissage, mais aussi de construction, pour reprendre des idées de Varela, par exemple, de construire des distinctions pour catégoriser le monde, c'est avec ça que le système commence à fonctionner. Ça veut dire que c'est moins évolution génétique, mais c'est plutôt évolution culturelle et développement et apprentissage.
Donc, théoriquement, donc, selon cette approche, est-ce qu'on peut dire que l'intelligence, si on prend le cas d'un enfant ou d'un bébé, d'un nouveau-né, est-ce qu'on peut dire que l'intelligence, ça s'acquiert comme à partir d'une table rase de presque rien, et que l'interaction avec l'extérieur, avec les phénomènes d'apprentissage...
Ça, c'est le grand débat. Et le débat, c'est entre des gens comme Chomsky, par exemple, qui pensent que beaucoup de connaissances sont innées. Par exemple, les catégorisations du monde sont innées, grammaire est largement innée, etc. Et à l'autre côté, il y a des gens qui parlent d'un tabula rasa où il n'y a rien du tout. Et c'est bon. Le problème, c'est de trouver où dans cette dimension où on peut se trouver. Alors, pour nous, en tout cas, on essaie de mettre le moins possible dans le système au début. C'est clair qu'il y a des choses qui doivent être là, mais on essaie quand même, par exemple, de pas mettre des catégories dedans, de pas mettre des structures de langage dedans, et que tout doit émerger par l'interaction de l'individu avec l'environnement et aussi avec les autres individus. Alors moi, je me trouve plutôt du côté, je ne dirais pas tabula rasa, mais très fort dans cette direction. Mais évidemment, il faut le montrer. Il faut,
oui, je comprends. Il faut le donner à voir. Quelles sont les, disons, quelles disciplines ou quels scientifiques avancent l'hypothèse d'une tabula rasa? Disons, pour situer, vous avez cité Chomsky, et de l'autre côté, c'est
il y a les empiristes, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les réseaux neuronaux, qui ont défendu une approche très tabula rasa. En termes de scientifiques,
il y a des centres de recherche, disons, en Europe, aux États-Unis, qui sont...
Oui, bon, tous les gens en Europe qui travaillent sur des réseaux neuronaux, comme Coronen, par exemple, ou aux États-Unis, des gens comme, au début, Rumel Hart, Elman, etc., à San Diego... un peu tout le domaine du connexionnisme part très fort de cette idée de induction, d'empirisme. Mais bon, je pense qu'il y a aussi dans cette ligne, cette discussion, il y a aussi une approche qui est, par exemple, l'approche de Piaget, que moi je me sens très bien avec ça, c'est qu'il y a une construction qui se fait. Il y a un processus de construire et il y a un processus de sélectionnisme, en fait, qui ça veut dire les constructions qui sont faites par l'enfant qui marchent sont ceux qui restent dans le développement, qui est différent des positions de pure empirisme comme les gens dans le connexionnisme aujourd'hui. Il faut avoir trois positions, en fait. Voilà. Et la position tout est inné, ou presque tout, position chomskyen, de Fodor et d'autres, et de Platon et de Descartes, etc. La position qui a un tabula rasa, qui est la position, ou plutôt, bon, je simplifie, hein, mais oui, des empiristes comme Hume, par exemple.
D'accord.
Mais il y a aussi cette position qui est un peu intermédiaire, qui est aussi prise par Varela, je dirais, qui a une construction de couplage sensorimotrice, de catégorisation du monde, de grammaire. Mais cette construction, hein, il y a une capacité de construire, mais qui est poussée ou influencée par l'utilisation de ces constructions, le test, tester ces constructions dans la réalité.
Le philosophe français Michel Serres a posé la question sur le développement de l'intelligence artificielle. Il demandait s'il fallait les craindre, etc. Il dit que, en fait, il ne le craint pas tellement parce qu'il trouve que, il dit, la difficulté, c'est pas tellement de créer, c'est plus difficile de créer un corps, un simple corps, qu'une pure intelligence. Je crois qu'un de ses livres prochainement va sortir sur variations sur le corps. Donc je pense que c'est une idée. Mais on sent bien aussi l'enjeu. Est-ce que, bon, vous travaillez sur le langage, mais est-ce que cette idée de corps, d'incarnation, comme dirait Varela de temps en temps, est-ce que c'est aussi la difficulté est-ce qu'on a des pistes, disons, des perspectives pour comment avancer dans cette voie?
Bah, justement, ça c'est un deuxième élément où l'intelligence classique est différente de ce qu'on est en train d'essayer aujourd'hui. Parce que dans l'intelligence classique, évidemment, il y avait aussi des gens qui ont construit des robots. Mais typiquement, la recherche et les applications et tout étaient sur des intelligences qui n'étaient pas ce qu'on dit « embodied ». Ça veut dire une intelligence en software qui n'a pas de contact avec le monde, qui n'a pas un corps. Et ça, c'est quelque chose dont moi et d'autres gens qui travaillent sur cette piste d'application d'idées de vie artificielle sur l'intelligence intelligence artificielle, c'est justement le rôle de l'environnement et du corps. Alors dans les expériences qu'on fait maintenant, déjà pendant 10 ans, il y a toujours un corps. On commence du corps, en fait. Et ça veut dire qu'il y a des capteurs, il y a une position dans le monde, les robots sont situés, et la position du point de vue, ça change. Ça veut dire que dans le langage, par exemple, c'est toujours le cas où deux gens qui parlent n'ont jamais la même perception de la réalité, parce qu'ils sont côte à côte, par exemple. Et aussi la perception de la lumière, ça joue un rôle. Alors ce qui se passe, c'est que quand il y a l'intelligence qui est située qui est embodied, je connais pas un bon mot en français.
C'est vrai qu'il est incorporé ou incarné ou...
Oui, ou matérialisé, on peut dire. Bon, il y a un effet que c'est beaucoup moins pur. Il y a beaucoup de noise, hein, de perturbations, uncertainty et tout ça qui rentre dans la communication. Et ça veut dire que les simulations qui ont été faites dans l'intelligence artificielle classique sont très pures parce qu'on n'a pas cette... le monde qui est tellement flou et plein d'erreurs et de fuzziness et tout ça.
D'accord.
Alors là, le grand challenge pour nous, c'est de vraiment mettre l'intelligence dans le monde. Et là, je trouve qu'on a vraiment fait des progrès les dernières années de la relation entre le pensée symbolique et le comportement dans le monde, dans un corps.
D'accord. Vous avez posé la question dans un de vos papiers, qu'est-ce qu'exactement qu'un Intelligent Autonomous Agent? Et la définition que vous proposez montre que, en fait, Il n'y a pas de robots actuellement qui peuvent être considérés comme intelligents, strictement intelligents ou autonomes. Alors pourquoi proposer une définition si restrictive ou une définition qui n'a, où il n'y a pas de candidat, disons?
De candidat, c'est un but.
D'accord.
Ça veut dire qu'il faut que le but est suffisamment... un challenge, hein?
Oui,
si ça existe déjà. Et bon, autonome, ça veut dire que l'agent se construit soi-même. Ça veut dire que c'est pas programmé. Et comme le vivant, hein, un être biologique qui est bon, qui se construit. Et là déjà, bon, typiquement, il n'y a pas beaucoup d'expériences où il y a vraiment une intelligence qui n'est pas programmée, qui est... Et aussi du côté intelligence même, on est très loin de l'intelligence de l'humain, ça c'est absolument clair pour moi.
Pourquoi les machines, c'est si difficile pour les machines d'acquérir le common sense, donc l'intelligence vraiment commune, c'est-à-dire le sens, le bon sens, comme on dirait en français, ou bien qui fait que par exemple...
Oui, il y a plusieurs problèmes. Bon, le problème numéro un, c'est qu'il faut que cette intelligence artificielle ait un contact avec le monde. Par exemple, on peut mettre 1000 définitions de rouge dans la machine, mais si la machine n'a pas une perception, on ne peut pas dire ça c'est rouge, ça c'est pas rouge. Il y a toujours des questions très simples qu'on peut poser que la machine ne peut pas répondre. Alors ça c'est question numéro un. Si il y a par exemple le projet Psyche par Doug Lennart, où il y a une équipe de je sais pas 50 personnes qui travaillent déjà pendant 20 ans ou presque ou 15 ans pour mettre des définitions dans la machine. Mais on peut très facilement dire quelque chose, poser une question qui détourne toutes ces définitions parce que ce système n'a pas une connexion avec le monde. Alors ça, c'est déjà numéro un. Numéro deux, c'est que la connaissance qu'on a de common sense knowledge est vaste. Ça veut dire que c'est complètement impossible d'imaginer qu'on peut être là en train de taper toutes ces connaissances dans une machine. Il y a tellement de choses et nous, on commence à apprendre dès le moment qu'on est né. Et bon, il y a aussi beaucoup de choses qu'on doit apprendre. Et c'est ça, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas imaginer de le programmer. Ça veut dire que pour avoir un système qui a le common sense, bon, ce système doit apprendre, aller à l'école, être dans une famille, etc., etc., tout ce que nous, on a tout le temps. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est à peu près impossible.
Qu'est-ce qui est impossible? D'abord, d'acquérir
oui.
ce sens.
Ça veut dire qu'il y aura toujours, parce que les machines ont d'autres façons de voir le monde, ont d'autres... problèmes dans leur vie, on peut dire, que moi j'imagine mal qu'il y aura des systèmes qui ont complètement le même type de connaissances que nous.
Un exemple du common sense, je crois, c'est que j'ai vu une figure du match entre Big Blue et Kasparov.
Oui.
Il y a une phase du jeu où plus ou moins... l'ordinateur, enfin, pour obtenir une égalité entre les deux partenaires, il faut sacrifier une tour. Et puis on obtient, ils arrivent à match nul. Et l'ordinateur n'a pas résisté à cette possibilité de sacrifier cette tour, ce qui fait que, alors qu'il était en grande position numériquement, en position plus forte, il n'a pas résisté à cette phase, ce qui fait que il perdait la bataille parce qu'il ne pouvait pas voir ce qu'un joueur moyen, très moyen, voir arriver à parvenir à un match nul justement en sacrifiant. Il y a une position, enfin, j'ai un livre où il y a cette figure et on voit clairement l'enjeu. Et c'est vrai que c'est Et donc, je reviens à votre question, à votre idée que vous, pour vous, ce serait impossible qu'on arrive à avoir des une intelligence aussi qui est ce common sense. Donc, dans le futur, on parle beaucoup de l'émancipation de l'intelligence artificielle, qu'elle va dépasser l'homme, etc. Donc, quelle est la personnalité de cette intelligence dans le futur avec les développements technologiques, quelles sont les particularités culturelles de ces machines intelligentes? Oui.
Moi, je ne crois pas du tout dans cette idée qu'il y aura une intelligence super puissante qui est beaucoup plus que l'homme, etc. Ça, pour moi, c'est une idée qui vient du science fiction, mais qui n'est pas réaliste. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va toujours être différente. Et c'est possible que ça fasse des choses que nous, on ne peut pas faire. Par exemple, ce qu'on est en train de faire avec cette expérience, on a implémenté un mécanisme de téléportation. Ça veut dire, ce mécanisme, c'est qu'un agent qui est dans un corps peut se dématérialiser, ça veut dire prendre tout son état interne de connaissance, etc., le mettre dans un état de software et voyager par l'Internet sur un autre corps, dans un autre corps. Et là, on fait ça tout le temps maintenant. Ça veut dire qu'il y a des agents qui flottent dans l'Internet, qui sont à Paris, et quelques secondes ou moins qu'une seconde plus tard, ils sont à Tokyo. Ils peuvent voir le monde par un corps différent. Alors ça, c'est quelque chose que pour les humains, c'est pas imaginable. Pour nous, le corps et notre connaissance est complètement lié. Et ça, c'est un exemple qu'on peut construire des entités intelligentes qui peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas. Et ça veut dire ces robots, hein, cet agent robotique, il peut aller à Tokyo voir quelque chose et revenir tout de suite. Alors ça, ce sont des choses... On peut dire que ces agents intelligents sont plus puissants que l'homme. Mais dans un autre sens, ils sont beaucoup moins puissants parce que ils n'ont pas cette... par exemple, des émotions, ils n'ont pas le sentiment des corps que nous, on a. Et on ne va pas simuler tout ça et reconstruire tout ça, c'est presque impossible. Alors, on voit bien qu'il y aura toujours des différences. Et qu'il y a des aspects pour que nous, on utilise des systèmes artificiels pour nous aider ou pour aller voir des choses, par exemple, et revenir avec des commentaires, ce qui se passe là-bas, ou de négocier pour nous avec d'autres agents pour obtenir certaines choses, ou surtout avoir des informations qui sont utiles pour nous, que nous, on ne peut pas... garder dans notre mémoire, ce sont le genre de choses qu'on peut imaginer. Mais pour moi, il y aura dans le futur, moi je donne un peu la métaphore des anges. Ça veut dire qu'on peut imaginer dans le futur qu'il y a des anges, je ne sais pas comment dire en français,
oui, en anglais,
digital, digital angels. Oui, ça veut dire des entités qui sont un peu comme les anges, qui ne sont pas tout le temps matérialisées, mais qui peuvent se matérialiser de temps en temps, et qui flottent un peu dans les réseaux Internet en train de chercher des informations et en train de collecter des choses, de garder des choses. Et nous, on peut appeler à ces anges de nous aider dans certaines situations. Mais c'est une relation personnelle. C'est une relation de... Nous, on doit investir dans nos agents pour qu'ils soient utiles pour nous. Et c'est un symbiose entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Alors, c'est plutôt quelque chose comme ça, parce que l'intelligence artificielle dépend crucialement des hommes. Et... Toujours, je pense.
D'accord, il n'y aura pas une émancipation dans totale libération. D'accord.
Bon, ça c'est en tout cas la vision. Moi, je pense qu'il y aura des corps robotiques partout dans le monde, dans, je sais pas, 10 ans par exemple, 20 ans, que le monde est plein de corps robotiques. Et que des agents, nos agents peuvent s'installer dans ces corps et faire des choses dans le monde. Ça, c'est un peu l'idée que j'ai. Mais je ne crois pas du tout dans ces robots super puissants qui essaient de capturer le monde. Ça, on va pas accepter ça. Il y a aussi un élément de... C'est comme s'il y a une voiture ou s'il y a un animal qui est dangereux, on va pas admettre cet animal dans notre monde parce que ça va tuer des gens, etc. C'est un peu la même chose. On va pas accepter qu'il y a des robots dangereux dans notre monde. Il y aura tout de suite une réaction de la société qui est correcte.
Alors, est-ce que cette même question, de manière plus large pour tout ce qui est vie artificielle, est-ce que vous, si je vous ai bien compris, vous dites qu'on n'est pas forcément à une bifurcation de l'arbre de vie. Il n'y a pas un risque. L'espèce humaine n'est pas en voie de transformation. Pour vous, clairement, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui affirment que
oui, mais ce sont...
un embranchement, un nouvel embranchement avec les machines, avec la connexion de toutes ces machines.
Moi, j'y crois pas du tout. Ce sont typiquement des scientifiques qui n'ont jamais construit un robot, qui n'ont jamais essayé de faire de l'intelligence artificielle. Parce que si on essaie vraiment, on comprend très vite les limites de la construction et des limites aussi de l'état de l'art pour le moment. C'est vrai qu'on est très loin dans la mécanique, hein, le mechanical engineering. On peut faire des ordinateurs extrêmement puissants, tout petits, tout ça, c'est incroyable. Mais les vrais problèmes, par exemple, comprendre comment un enfant apprend la notion de rouge, ça, on ne comprend pas. Même des couleurs, des formes, ça veut dire au niveau conceptuel, au niveau de langage, de compréhension du monde, on peut faire des simulations de ce que les humains font, mais la vraie compréhension et la vraie récréation de l'intelligence autonome, ça, on est très loin de le faire.
D'accord. Donc, votre système de téléportation, c'est très intéressant comme domaine, comme voie. Donc vous ne croirez pas à l'idée que bon un jour on pourra dupliquer notre intelligence sur un support et
non, ça j'y crois non plus parce que pour plusieurs raisons, ça bon je sais qu'il y a des gens qui disent ça, hein, notamment comment est-ce qu'il s'appelle là, de Carnegie Mellon, mais là ça parce que bon, pour les systèmes biologiques, il n'y a pas une différence entre hardware et software. Le hardware et le software. Ça veut dire, dans les ordinateurs, on peut prendre le programme et de l'installer sur une autre machine, pas de problème. C'est incroyable qu'on peut faire ça. Et c'est ça qu'on fait avec nos agents. On prend le programme qui tourne dans un robot et on le met dans une autre. Mais pour les systèmes biologiques, c'est pas possible parce que la structure de notre cerveau et aussi le programme, il n'y a pas cette différence. Et pour ça, moi, je crois, pour préserver ça, il faut en fait prendre, reconstruire toute la sur un niveau micro, micro niveau. La structure même des neurones, leurs connexions et tout. Et deuxième chose, c'est que ça change tout le temps. Ça veut dire que c'est un système vivant qui change. Alors si, supposons qu'on peut prendre une copie, préserver cette information, on regarde 2 minutes plus tard, il y a des nouvelles connexions qui ont été faites, et le cerveau est quelque chose qui s'adapte tout le temps, qui change tout le temps. Alors là, moi, je ne crois pas du tout dans cette idée. Je crois aussi non plus dans l'idée qui était dans un article dans Scientific American récemment. Je peux vous
Oui,
envoyer si ça vous
pendant ce
intéresse.
oui, bien sûr.
C'est l'idée qu'on peut, avec des systèmes qu'on peut implanter,
Des implants, oui.
oui, des implants pour, par exemple, une module du français. Hein? On peut rêver de ça. On doit aller en Suisse,
Faire un
on fait
implant.
oui, français, on doit aller au Japon, et puis
Donc les
le
implants,
japonais.
etc. Oui, bon, c'est vrai que moi j'ai un de mes personnes qui est plus mardi. Bon, dans son livre, il ne me l'a pas dit, on n'en a pas parlé, mais Neil Gershenfeld, qui m'a dit, enfin dans son livre, il dit à terme, les implants, c'est la poursuite logique
Oui,
de.
mais là, de nouveau, on suppose que le cerveau est organisé comme un ordinateur, avec des petits modules qu'on peut changer et ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Parce que, par exemple, pour la compréhension des mots, c'est tout le cerveau qui est impliqué. Ça veut dire, c'est un système parallèle, non modulaire, où beaucoup d'éléments entrent. C'est pas du tout dans des petites boîtes. Ici, c'est le langage, ici,
Exactement.
c'est la vision, ça fonctionne pas du tout comme ça. Alors, je pense qu'il y a plein d'idées très naïves sur la capacité du cerveau, et aussi que c'est sous-estimer complètement la complexité de la chose. Ça veut dire qu'il y a une connaissance massive dans notre cerveau qui. L'ordinateur d'aujourd'hui, c'est un jouet comparé avec le cerveau humain.
Exactement. Et vous avez récemment, je crois récemment, depuis quelques années, vous vous êtes intéressé au langage.
Oui.
Est-ce que
Bon,
c'est.
je dois dire, de formation, d'origine, je suis linguiste.
Ah oui, d'accord.
Et après, j'ai commencé avec de l'intelligence artificielle et tout, et informatique. Mais c'était toujours un de mes intérêts.
Donc, c'est pas. Est-ce que c'est une voie qui est très développée, le langage,
Ben, ça commence, si on
Parce que j'ai
regarde,
l'impression, je n'ai pas de connaissances, et j'ai l'impression que c'est nouveau parmi ces
oui,
jeunes.
c'est très nouveau. C'est un développement des dernières années,
D'accord.
mais on voit dans cette conférence, par exemple, qu'il y a vraiment le thème sort comme un des nouveaux thèmes de cette conférence.
D'accord. Et disons, quelle est la pertinence de cette approche? Vous utilisez donc la linguistique, la formation, vous étudiez la formation du langage, et ça implique l'auto-organisation, si j'ai bien compris.
Oui, c'est
Donc,
ça. Et l'idée, c'est de. Bon, la linguistique, de nouveau, il y a une linguistique classique, hein, qui est la linguistique chomskienne et tout, qui fait une description du système du langage comme en étant quelque chose qui est stable et qui est complètement. Bon, qui. Il n'y a pas cet élément. Bon, ça existe dans la linguistique, mais la plupart des linguistes aujourd'hui regardent le système de langage comme quelque chose qui ne bouge pas. Et ils font une analyse du système de connaissances humain. Alors, ce qu'on est en train d'essayer, c'est de comprendre l'origine et l'évolution du langage. Ça veut dire de voir le langage comme un système vivant qui change tout le temps, qui est adaptif, qui est ancré dans les comportements et les corps et les sensations des hommes. Et alors c'est très logique hein, quand on accepte que l'ancrage dans un corps est important et que l'évolution est importante et le développement, c'est logique de se poser la question concernant l'évolution du langage. Et pour moi, c'est venu parce qu'on a fait beaucoup d'expériences avec des robots qui font éviter des obstacles et des trucs comme ça. Et les gens disent, oui, c'est pas mal, c'est intéressant, mais est-ce que c'est intelligent? Alors la question, c'est comment monter des comportements sensorimotrices vers une cognition plus oui, plus symbolique, plus modélisation, concept, etc. Et moi, à un certain moment, j'ai pensé que le langage est une clé, un des grands clés pour arriver à ça, aussi chez l'enfant. Ça veut dire que la communication est un moteur pour développer des concepts et pour pousser la complexité cognitive de l'organisme vers les niveaux qu'on connaît chez l'homme. Et c'est comme ça, en fait, ces deux points de vue, voir le langage comme un système vivant, et deuxième, la clé que le langage joue pour pousser vers une complexité plus haut.
Donc moi, j'ai remarqué cette double particularité dans ce travail, c'est que vous utilisez donc le langage, c'est quand même assez nouveau, et puis vous utilisez aussi les idées de l'auto-organisation. Vous dites que le langage, on peut le voir comme un système, si je vous ai lu, une structure dissipative. Donc,
oui, exactement.
Je vois aussi la particularité, il y a l'école, l'influence de l'école de Bruxelles.
C'est ça, oui, de Prigogine et tout ça.
Parce que je vois aussi le site de Neubourg, les travaux sur.
Oui, oui, oui.
Si vous pouviez évoquer un peu ce.
Bah oui, exactement, et ça a joué un très grand rôle pour moi dans ma carrière scientifique. C'est que toutes ces idées qui ont été formulées par Prigogine et d'autres gens, surtout en Europe, qui travaillent dans l'auto-organisation, peuvent s'appliquer pour comprendre la complexité de l'intelligence et la complexité culturelle du langage. Et par exemple, pour le langage, pour comprendre comment des êtres qui sont distribués, il y a des milliers, des millions de gens qui parlent le même langage, il n'y a pas un point central de contrôle. Et ce n'est pas tout programmé. Alors comment est-ce que c'est possible qu'il y a une cohérence? Et là, c'est le même problème pour expliquer comment les fourmis peuvent s'auto-organiser pour avoir un chemin commun. Ou des nuages des oiseaux dans l'air. Comment est-ce que c'est possible? Alors, l'idée, c'est que pour le langage, c'est le même principe. Ça veut dire qu'il y a des interactions locales entre les agents, les fourmis ou des oiseaux, ou dans le cas du langage, il y a des jeux de langage qui se font entre des humains ou des agents artificiels. Mais il y a un positif feedback loop dans le système. Ça veut dire que quelque chose qui a succès va être utilisé plus. Et comme ça, on peut montrer qu'il y a une propagation des mots, une propagation des constructions qui se fait dans la groupe, et comme ça que la cohérence s'auto-organise. Alors c'est quand même très étonnant que les mêmes principes qu'on retrouve dans la physique, dans la chimie, dans la biologie, aussi dans le social, etc., se retrouvent ici dans le domaine culturel et le domaine de l'intelligence cognitive, et que, bon, on trouve une unité dans la nature qui n'était pas là avant. Parce qu'avant, on avait pensé que l'intelligence ou le langage, c'est quelque chose de complètement différent des autres phénomènes naturels. Et l'auto-organisation, ça c'est un exemple, mais il y a aussi le sélectionnisme comme moteur.
Oui, d'accord, la sélection naturelle,
oui.
Principe.
Oui, qui est un moteur pour expliquer beaucoup de choses dans la biologie, l'origine, la complexité. Alors de nouveau, on essaie d'appliquer ces idées pour comprendre, par exemple, pourquoi le langage évolue dans une certaine direction. Par exemple, il y a certains sons qu'on retrouve dans les langages humains, mais pas d'autres. Il y a des tendances universelles. Et on ne dit pas qu'ils sont innés, que Chomsky, par exemple, dit, bon, pourquoi est-ce que c'est universel? Parce que c'est inné. Mais on peut montrer avec des modèles que c'est parce qu'il y a le sélectionnisme des contraintes biologiques et des contraintes culturelles qui poussent vers un certain type de système phonétique. Alors on trouve vraiment d'autres explications pour expliquer les tendances universelles dans les langages ou dans la conceptualisation de la réalité, par exemple. Alors moi, je suis extrêmement excité parce que c'est tout le début, mais il y a déjà des résultats bon, qui sont clairs, qui sont qui donnent des explications pour des phénomènes qu'on n'avait pas eu avant.
D'accord. Quand vous parlez de sélection naturelle et d'auto-organisation, est-ce que vous êtes parmi les gens aussi qui posent l'auto-organisation comme l'autre principe parallèle, ou bien c'est disons le primat de l'histoire, c'est la sélection naturelle et l'auto-organisation, c'est un mécanisme qui fait partie de la sélection, ou c'est une autre source de différenciation de... Est-ce que c'est un...
Oui, mais je sais, il y a ce
débat.
Est-ce
que c'est Darwin, darwiniste? Ou bien c'est là, on reconnaît le principe de la sélection naturelle, c'est très important, mais l'auto-organisation c'est une quête parallèle, c'est un autre facteur
oui.
aussi important.
Non, non. Pour moi, ce sont deux processus différents qui se renforcent les uns les autres, évidemment. Ça veut dire que le sélectionnisme, la grande différence pour moi, c'est que dans un sélectionnisme, il y a la création de variations et il y a la préservation d'informations. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un mécanisme qui préserve l'information. Par exemple, DNA ou la mémoire. Dans le langage, c'est la mémoire des gens. Et dans l'autre organisation, on peut déjà avoir une autre organisation dans les systèmes chimiques sans qu'il y ait une mémoire ou sans qu'il y ait une préservation de l'information. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est plutôt actif sur des niveaux collectifs, mais qui peut s'appliquer aussi hein, sur des niveaux culturels. C'est pas le niveau qui est important. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose, ce sont des deux mécanismes complémentaires.
D'accord.
Et il y a d'autres mécanismes. Il y a l'auto-organisation, le sélectionnisme, mais il y a par exemple un mécanisme qu'on ne comprend pas encore très bien, c'est le mécanisme de création de niveaux.
Passage d'un niveau à l'autre, oui, d'accord.
Oui, ça veut dire par exemple qu'une entité devient partie d'un groupe plus large qui donne qui renforce l'individu et les deux bon il y a deux niveaux de complexité. Alors ça c'est encore moins compris mais je pense que c'est très important par exemple pour comprendre l'origine de grammaire. C'est ça qui se passe. Il y a des mots individuels, après un certain temps ce sont des groupes, des structures syntaxiques qui sont formées, c'est un méta-niveau qui s'organise et qui fait que le langage devient beaucoup plus puissant et beaucoup plus stable, etc. Mais ce genre de choses, on ne comprend pas encore, mais de nouveau, on voit dans la biologie, on voit ce mécanisme de level formation, de hiérarchie qui émerge, et on le voit dans l'économie, on le voit un peu partout. Et ça, c'est un autre exemple. Je pense qu'il y a encore d'autres principes de création de complexité qu'on n'a pas encore compris.
D'accord.
Et que, bon, qu'en étudiant le langage, par exemple, c'est bien possible de voir des principes qui peuvent après s'appliquer aussi sur le domaine biologique. Ça veut dire que c'est pas que ça va dans une direction, qu'il y a vraiment un échange qui peut se faire.
Vous êtes justement, votre conception de l'intelligence artificielle, c'est ascendante, donc bottom-up, c'est plus le modèle biologique, comparément à l'autre, donc centralisé,
approche top-down,
descendant.
Ouais.
Est-ce que, bon, certains observateurs de la scène de l'intelligence artificielle, ils disent qu'en fait, la solution la meilleure, la plus optimale, viendra quand les deux écoles vont converger, ascendante et descendante. C'est là que vraiment, il y aura une fusion entre les deux. Quelle est votre opinion?
Non, c'est vrai. Et ce qu'on essaie effectivement avec cette voie du langage, c'est de to bridge the gap.
Ça veut dire
et c'est sûr qu'il y a un niveau de résoudre des problèmes au niveau symbolique, c'est clair qu'on fait ça. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. C'est, à mon avis, c'est un peu ridicule. Mais ce qu'il faut faire, c'est de effectivement voir comment les techniques, les mécanismes, les principes de l'intelligence symbolique peuvent être retrouvés, reconstruits, réinventés par cette approche ascendante.
L'intelligence artificielle, c'était la première discipline, et puis il y a eu une sorte de outgrowth, c'est l'artificial life. Et maintenant, l'intelligence artificielle est une sous-discipline. C'est vrai que la définition de la vie est très difficile, la définition de l'intelligence. Il y a aussi la conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience. Bon, il y a un aspect de poupée russe comme ça qui s'emboîte. Mm-hmm. Comment vous voyez les relations entre ces...
Non, je pense que les noms des domaines comme intelligence artificielle ou cybernétique, c'est un autre nom, ou vie artificielle, tout ça, c'est... En fait, il y a les individus, il y a des chercheurs qui ont des intérêts, qui ont des idées. Qui flottent un peu. Et de temps en temps, on groupe ça et on donne un nom là-dessus. Mais bon, c'est un peu artificiel, parce que ça se réorganise tout le temps. Alors, à mon avis, il ne faut pas trop mettre dans des termes comme ça.
D'accord.
C'est plutôt vie artificielle, par exemple, c'est une façon qu'il y a des gens de plusieurs domaines qui vont communiquer
D'accord.
entre eux, et il y a des communications de
Excuse me. Do you have some time to 10 minutes to talk at some point?
Yeah, okay. This is an interview, so we will do that later. Yeah?
Okay.
I'm here all day.
All right.
Okay. Alors il y a des bon, ici, il y a des gens qui parlent d'automates cellulaires, de chimie artificielle, de vie artificielle et tout ça. Et c'est bien qu'il y a des interactions comme ça et qu'on apprend.
Exactement.
Et c'est ça que je trouve. Ça veut dire que c'est une façon d'échanger des idées. Mais bon, on peut aller dans des conférences maintenant sur l'évolution du langage. Et là, on parle avec des des gens qui travaillent sur l'histoire du langage, les gens qui... Et c'est fascinant d'avoir comme ça un groupe de gens, et pour moi comme scientifique, moi je flotte entre tous ces domaines-là, et c'est ça qui donne des idées nouveaux. Alors moi je pense pas qu'il faut mettre des gens trop dans des petites boîtes et essayer de... découper ça.
C'est aussi, bon, il y a un aspect aussi de marketing. C'est vrai que c'est très artificial life, c'est vraiment flashy. Hein,
oui, marketing, là c'est le bon mot. Et le génie de Chris Langton, c'est le génie de marketing. Ça veut dire de grouper certains gens et de mettre un label là-dessus.
Voilà, exactement.
Mais bon, c'est... moi, j'ai fait vie artificielle sans le savoir dans les années 80, okay. Et c'est après que le nom en est venu.
Vous travaillez, on peut dire que vous êtes avec Rodney Brooks, vous êtes en Europe, disons, là, c'est plus ou moins la même approche. Vous avez, est-ce qu'on peut dire ça?
Pour les aspects robotiques, oui. Exactement.
Oui, bon, je ne sais pas si oui, certainement, je ne travaille pas sur le langage, mais c'est vrai.
Exactement, ça c'est la différence. Ça veut dire que Brooks est resté sur un niveau... sensorimotrice et a essayé de construire Cog, qui est un robot beaucoup plus complexe. Alors il est allé dans une plus de complexité côté sensorimotrice, et moi j'ai pensé que le problème n'est pas là. Le problème est dans même avec des robots simples, on peut aller dans une direction de communication, de langage, et c'est ça qui va aller vers une intelligence artificielle. Alors, mais bon, pour le...
Vous avez fait un bout de chemin ensemble, on peut dire.
Oui, beaucoup, parce que dans les années 80, il était dans mon labo, on a fait des choses ensemble.
Un Pixel, vous voulez dire
Oui.
Ah, d'accord. Ah, oui. Parce que j'ai vu, vous avez écrit des...
Oui, des livres ensemble, oui.
Des choses comme ça.
Ouais.
Bon, lui, c'est dans à MIT, je crois. Oui, bon, c'est la tendance alternative à l'autre, au fondateur de la... Mais Minsky, donc c'est la voie...
Oui, Minsky, mais plutôt à Stanford, John McCarthy, par exemple. C'est vraiment l'exemple de l'intelligence classique.
D'accord, ok.
Ou Nielsen, etc.
Dans vos travaux, pour cette dernière question, vous avez mentionné qu'il y a aussi des gens qui disent qu'en fait, l'intelligence artificielle, on n'y arrivera pas parce qu'il y a des éléments non-computable elements. Donc vous avez cité
Penrose, par exemple.
Cette histoire de qu'il y a quelque chose à niveau quantique dans le cerveau, quel est votre...
Moi, j'y crois pas du tout dans ça.
D'accord. Oui, il y a beaucoup de gens, il y a très peu de gens qui croient en ça.
Ça, c'est à mon avis, c'est de remplacer un mystère par un autre mystère.
Ah, joli.
Et à mon avis, les solutions ne sont pas là.
D'accord.
Et c'est typique, j'ai discuté avec Penrose à l'époque. Lui, moi je crois plutôt les mécanismes de auto-organisation, etc., qui sont aussi dans le domaine physique.
Absolument.
On les retrouve dans la nature. C'est pas ça. Mais c'est clair qu'il faut trouver des systèmes, des mécanismes biologiques et de la nature pour expliquer l'intelligence. Ça c'est clair. Mais le quantum physics, à mon avis, ça joue aucun rôle. Et le problème, c'est que les physiciens comme Penrose, ils cherchent, ils traitent l'intelligence comme quelque chose comme la gravité, un phénomène comme ça, qui a une explication comme gravité, ou magnétisme, ou la conscience, hein. C'est comme le magnétisme ou la gravité. Mais c'est pas comme ça quand on fait une étude de l'intelligence, on comprend très vite qu'il y a des processus énormément complexes qui sont en train de se faire. Et des processus, des étapes, par exemple, dans le langage, c'est pas quelque chose immédiat. Un phénomène comme ça, mais il y a vraiment du processing. Et c'est ça le grand leçon de l'intelligence artificielle, c'est que... Et les étapes, et ça peut aller très très vite. C'est pas parce que c'est vite qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Et aussi la question de mémoire et tout ça. Alors à mon avis, moi j'y crois pas.
D'accord, et que vous inspire l'argument de la logique, les limites de la logique, l'argument de Gödel. Bon, c'est sur quoi il base Penrose, mais d'autres aussi, en disant, bon, peut-être cette utilisation de l'incomplétude de Kurt Gödel, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport aux travaux d'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est plus pour une approche de logicien. Vous êtes plus tourné vers tout ce qui est apprentissage que programmation et logique.
Oui, et je pense que Penrose et autres sous-estiment complètement la puissance d'auto-organisation et de sélectionnisme. Ça veut dire que, bon, pour trouver des algorithmes, par exemple, qu'on fait dans le domaine des algorithmes génétiques, on lance un processus qui crée beaucoup de variations qui fait une recherche dans cet espace. Cette limite théorique de prouver certains théorèmes par un processus mathématique, hein, parce que c'est ça, le théorème de Gödel, ça concerne uniquement des systèmes qui n'utilisent que des étapes logiques dans le raisonnement. Mais c'est parfaitement possible d'utiliser des ou de simuler des raisonnements non logiques, des associations par exemple, ou simplement des variations d'une idée, et on commence à jouer avec. Il n'y a pas de raison pour qu'un processus physique ne peut pas faire des raisonnements non logiques. C'est sûr qu'il y a des limites si on insiste sur certaines opérations et sur la vérité et des choses comme ça. Mais ce sont tous des limites bon, qui sont pour moi complètement artificielles. Ce qui compte, c'est de survivre dans ce monde avec d'autres gens, avec les capteurs qu'on a, c'est ça qui compte. Et pas de théorème de Gödel sur les nombres. Bon, ça c'est un problème pour moi complètement artificiel, qui n'est pas lié à le vrai problème d'apprentissage, de développement, de comportement sensorimotrice, etc. qui sont aussi très compliqués. Mais c'est ça qui m'intéresse.